mettre plein les oreilles.
Bonjour à toutes et à tous, Clotilde Seille en direct du studio de Canal M, ici à Montréal, sur la rue Sherbrooke, qui vous présente cette semaine, comme toutes les semaines, cette émission consacrée aux livres audio des livres plein les oreilles. Qu'avez-vous lu ou écouté de Joël Dicker depuis sa célébrissime affaire, oui, Harry Kéber, oui, ça remonte déjà maintenant, il en a écrit plus d'un depuis. Dicker, Joël Dicker, le Suisse, le prolifique, qui nous offre deux titres tout récents en audio depuis qu'il a créé sa propre maison d'édition. J'espère qu'il va nous emmener complètement ailleurs, Monsieur Dicker. D'ailleurs, oui, je sais qu'il va nous emmener complètement ailleurs avec la très catastrophique visite du zoo ou du zoo, comme disent les Français et les Européens, et Le Tigre, histoire toute courte, toutes deux racontées par Emily Holmes. Ensuite, dans l'émission, rendez-vous en audio dans l'univers du magicien d'Oz, avant de retrouver le magicien Gérald Cousineau, encore une fois invité à nous parler d'un livre qu'il a écouté cette semaine, ce sera Le Barman du Ritz. Et on finira avec des nouveautés qui m'avaient échappé, entendez par là, qu'elles sont sorties en 2024, mais que j'en avais pas encore parlé. Il y a eu au mois de mars en France un événement tout à fait splendide, en tout cas à mes yeux et surtout à mes oreilles. C'était du 8 au 11 mars dernier, des personnalités de tous horizons et des personnalités souvent d'ailleurs aimées des Français ont joué le jeu de quoi ? Du quart d'heure de lecture nationale. Comédiens, sportifs, chanteurs, auteurs, chefs cuisiniers, dans leur environnement de travail, ont cessé absolument toute activité et ils ont fait une pause, un livre dans les mains. Et ils ont invité le public à partager cette pause lecture. L'objectif, bien sûr, étant de sensibiliser les Français à l'importance et au plaisir de la lecture dans un contexte de recul hein, de cette pratique-là, hélas, notamment chez les plus jeunes. Alors, l'écrivain Joël Dicker, il a dit, d'accord, bon, vous savez qu'il est de Genève, lui. Et puis donc, je vous le disais, il a récemment délaissé les polars et il a publié deux livres à travers sa propre maison d'édition. Et par rapport à la lecture, il dit ceci, il dit, écoutez, c'est pas très compliqué de lire, faut juste avoir un livre. C'est déjà une bonne étape. Puis, commencez par 5 minutes. Je crois que le problème des gens qui voudraient bien se mettre à lire, c'est qu'ils ne savent pas comment on entre dans la lecture. Je comprends parce qu'on a l'impression que ça va être chiant, que c'est interminable. C'est pas moi qui parle, c'est Joël Dicker. Qu'on n'a pas du tout de plaisir. Eh bien, en fait, un livre, c'est du plaisir. Il suffit de commencer 5 minutes par jour, et on aura du plaisir. La très catastrophique visite du zoo, qui à peine sortie et se vend déjà comme des petits pains, on est à la veille de Noël, c'est à la fois pour les jeunes et pour les adultes, et c'est une visite scolaire qui tourne un peu à la catastrophe dans cet élément bon, qui est le zoo. Alors on peut imaginer beaucoup de choses, avec aussi une histoire d'amour en filigrane qui est celle qui devrait se produire, avoir lieu entre l'institutrice et le directeur, et Dieu sait si les mômes vont tout faire pour que ça se passe comme ça. Extrait.
Soudain, un appel sonore a retenti dans les haut-parleurs. Une voix a informé les visiteurs qu'un groupe de 6 enfants était perdu dans le zoo, et la voix a donné une description très précise de nos vêtements. Comment Mademoiselle Jennings pouvait-elle se souvenir de ce que nous portions ? Elle était une bonne maîtresse d'école. Il nous a semblé que tous les visiteurs autour de nous commençaient à nous dévisager. Il était temps de partir d'ici et aller nous cacher ailleurs. Au moment de sortir du vivarium, on a vu, par la porte vitrée, une voiturette du zoo qui déboulait sur l'allée principale avec à son bord des employés et Mademoiselle Jennings. Elle était vraiment déterminée à nous retrouver. Mais que fabriquait ce satané directeur ? On a attendu que la voiture ait disparu et on a filé dans la direction opposée. On s'est retrouvé au bassin des otaries. Ça tombait à pic. C'était l'heure où les soigneurs les nourrissaient et il y avait un monde fou installé dans des gradins en pierre. On s'est assis parmi les spectateurs, espérant être invisible. Mais à nouveau, une alerte sonore a retenti dans les haut-parleurs. Et cette fois, c'est la voix de Mademoiselle Jennings qui a retenti.
Les enfants,
On ressentait beaucoup de tristesse et d'inquiétude dans sa voix. Ça nous a vraiment fait de la peine. En voulant être gentil avec le directeur et l'aider, on faisait du chagrin à Mademoiselle Jennings. On a quitté discrètement les gradins. En passant à côté d'une voiturette des employés du zoo garée sur le bord de l'allée, on a entendu la radio de bord qui crépitait.
Toujours aucune trace des enfants perdus. La police est prévenue, des agents vont arriver sur place.
Quand on a entendu ça, on a frémi. La police était prévenue, ça devenait sérieux. On avait envie de renoncer et d'aller retrouver Mademoiselle Jennings. Mais en même temps, maintenant qu'on avait fait tout ça et que la situation était vraiment grave, le directeur allait être un sacré héros s'il nous retrouvait. Le hasard de notre déambulation nous a finalement conduit où nous voulions aller depuis le début, la section savane africaine. Là, il y avait dans d'immenses enclos mitoyens des lions, des panthères, des girafes, des zèbres, des hippopotames, des rhinocéros, des gorilles. Les animaux étaient en contrebas des visiteurs, ce qui permettait de les observer parfaitement. On est resté un petit moment à contempler les lions. Soudain, on a entendu
« Mes petits coquins, vous êtes là !»
On s'est retourné. C'était le directeur. Il nous avait retrouvés, enfin.
« Où étiez-vous passé ?»
nous a-t-il interrogé.
« Dans le zoo ?»
j'ai répondu.
« Dans le zoo, mais pas avec nous !»
nous a réprimandé le directeur.
« Vous nous avez fait peur, vous savez. Allez, venez avec moi, nous allons retrouver Mademoiselle Jennings. Elle va être tellement soulagée. »
Notre plan allait fonctionner. Mais alors qu'on se mettait en route docilement avec le directeur, celui-ci a ajouté.
« Maintenant qu'on vous a retrouvé, je vais pouvoir lui donner ma lettre. »«
Quelle lettre »
ai-je demandé.
« Je lui ai écrit une lettre. »
nous a alors confié le directeur.
« Une lettre d'amour ?»«
Oui. Comment le sais-tu ?»«
Quand un homme écrit une lettre à une femme, en général, c'est une lettre d'amour. »«
Moi, quand mon père écrit à ma mère, »
a précisé Otto,
« ce sont des insultes. »
C'est du genre, et je ris, mais c'est pas drôle. C'est du genre Heldicker, la très catastrophique visite du zoo. Il y en a un autre qui vient de sortir tout court, qui s'appelle le Tigre. C'est lu par la même voix, par la même jeune femme que celle que vous venez d'entendre, Emily Holmes. Le Tigre, c'est un conte qui peut être recommandé à la jeunesse, ainsi qu'à tous les admirateurs de Joël Dicker. C'est certain. En fait, c'est un des premiers textes que Dicker a écrit quand il avait 19 ans. Et ça raconte un fait divers, singulier, mais vrai, qui a défrayé la chronique de Saint-Pétersbourg, la capitale de l'Empire russe, alors qu'un tigre monstrueux fait régner la terreur dans la lointaine Sibérie. On parle pas des États-Unis là et du machin roux là. On parle vraiment d'un tigre en Sibérie. Il décime les troupeaux, il massacre les villageois qui évidemment sont morts de peur et qui n'osent plus sortir de chez eux.
Ce que l'on appelait désormais le massacre de Tibier était sur toutes les lèvres. D'ordinaire solitaires et discrets, les tigres ne s'attaquaient pour ainsi dire jamais aux hommes. De quelle nature était donc ce fauve qui s'en était pris à un village entier? Le témoignage des deux moines s'accordait avec les légendes les plus effrayantes. Il rôdait dans les confins de la Sibérie un tigre que rien ni personne ne pouvait arrêter. Toute cette affaire aurait pu ne constituer qu'un simple fait divers du début du siècle si le tigre en était resté là. Mais un mois après Tibier, et non loin des ruines du village, l'animal s'en prit à un groupe de marchands qui voyageaient. C'est le seul survivant de l'attaque qui rapporta les faits. À la même période, un groupe de chasseurs aguerris disparut sans que l'on ait plus jamais de leurs nouvelles. Puis, ce fut au tour d'un émissaire du tsar, envoyé en Sibérie pour enquêter sur ce tigre qui terrorisait la région et qui fut retrouvé égorgé. Aux prémices de l'hiver, le tigre avait déjà fait plusieurs dizaines de victimes. Et ce qui n'était en juillet qu'un fait divers avait pris désormais de tout autre proportion. Tout le pays tremblait à l'évocation du tigre, de Saint-Pétersbourg jusqu'au Kamtchatka, dans les hameaux isolés comme dans les grandes villes. On disait qu'il pouvait surgir sur un marché, dans la cour d'une maison, et même dans les palais des gouverneurs, pourtant si bien gardés. Riches et pauvres, face à la peur du fauve, étaient devenus égaux. Aucune barrière sociale ne protégeait de l'animal. Ceux qui en avaient les moyens réquisitionnaient des hommes, s'achetaient des fusils et restaient autant que possible enfermés chez eux.
La rumeur populaire enflait de jour en jour. Ce n'était plus un tigre isolé, mais une meute entière, semant la mort sur son passage. Et les journaux annonçant tous les jours de nouvelles morts suspectes ne faisaient qu'aggraver la terreur collective. À Saint-Pétersbourg, le tsar réunissait quotidiennement ses conseillers pour faire le point sur la situation. Il trouvait cette panique populaire tout à fait ridicule, mais il se devait d'agir. Car ce tigre commençait à mettre en échec sa nouvelle politique économique pour la Sibérie, trop longtemps considérée comme un plateau aride et dont il avait décidé d'exploiter au maximum les ressources. Les Américains, eux, n'avaient de cesse de trouver d'extraordinaires sources minières et pétrolifères dans cet Alaska que l'Empire russe avait bêtement vendu aux États-Unis pour une poignée de dollars, croyant l'avoir totalement vidé de ses richesses. Le tsar espérait réparer cette erreur en changeant le statut de la Sibérie et donner un nouveau souffle au pays. Mais voilà que ce tigre commençait à provoquer un exode de la population rurale et effrayait les investisseurs. Il fallait impérativement trouver une solution.
« Envoyez-moi les meilleurs chasseurs du pays en Sibérie !» ordonna le tsar à ses conseillers.
« Mais Altesse, lui répondit-on, les chasseurs ont peur d'aller là-bas »
Eh ben oui, c'est incroyable quand même d'avoir écrit ça à 19 ans. Eh bien oui, Le Tigre, conte écrit par Joël Dicker, alors qu'il était en fin d'adolescence, quoi, jeune adulte. Joël Dicker qui, au sujet de la littérature dans nos sociétés, a dit « Je crois que la littérature, ou appelez ça industrie du livre si vous voulez, a raté quelque chose. Et je le dis avec modestie et humilité. Elle a raté quelque chose que, et je vais le répéter, que le sport a réussi, que le cinéma a réussi, que la série a réussi, c'est fédérer les gens. » C'est mettre les gens ensemble. Et je crois qu'on a un petit peu de chemin à rattraper pour faire en sorte que les gens se remettent à lire et se rappellent ou retrouvent ou redécouvrent ou découvrent combien lire c'est excitant, combien lire c'est passionnant. Moi, je vais vous proposer de redécouvrir ou de relire par écrit ou par les oreilles Les derniers jours de nos pères de Joël Dicker. C'est sorti en 2023, mais j'en avais jamais parlé. Nous sommes à Londres en 1940, au moment où Churchill a créé une branche noire des services secrets qu'on appelle la SOE, le Special Operation Executive, qui est chargée de mener des actions de sabotage et de renseignement à l'intérieur des lignes ennemies. L'existence même du SOE a été longuement tenue secrète. C'est là qu'un jeune homme, Paul Émile, va quitter Paris pour Londres dans l'espoir de se joindre, de rejoindre la résistance via le SOE. C'est Le Dernier Jour de nos Pères est un des premiers romans à évoquer la création de ce groupe et à revenir sur les véritables relations entre la résistance française et l'Angleterre de Churchill. Extrait de Les Derniers Jours de nos Pères de Joël Dicker. Florent Chépé est à la narration.
La guerre les avait rattrapés et en faisant le choix des armes, Pal faisait le choix d'abandonner son père. Il avait su son départ en août déjà, mais il avait été incapable de le lui annoncer. Lâche, il n'avait trouvé le courage des adieux qu'à la veille de partir, après le repas du soir. « Pourquoi toi ?» s'était étouffé le père. « Parce que, si ce n'est pas moi, ce ne sera personne. » Le visage plein d'amour et de douleur, il avait enlacé son fils pour lui donner du courage. Toute la nuit durant, terré dans sa chambre, le père avait pleuré. Il pleurait de tristesse, mais il trouvait que son 2 ans était le plus courageux des enfants. Pâle était resté devant sa porte à écouter les sanglots, et il s'était soudain tant haï de faire pleurer son père qu'il s'était entaillé le torse de la pointe de son canif jusqu'à saigner. Dans un miroir, il avait regardé son corps meurtri, il s'était insulté, et il avait creusé encore la chair à l'endroit de son cœur pour s'assurer que la cicatrice ne disparaîtrait jamais. Le lendemain à l'aube, son père, déambulant dans l'appartement en robe de chambre, l'âme déchirée, lui avait fait du café fort. Pâle s'était assis à la table de la cuisine, chaussé, chapeauté, et il avait bu le café, lentement, pour retarder le départ. Le meilleur café qu'il boirait jamais. « As-tu pris de bons vêtements ?» avait demandé le père en désignant le sac que son fils s'apprêtait à emporter. « Oui. » « Laisse-moi vérifier. Il te faut des habits bien chauds. L'hiver va être froid. » Et le père avait ajouté dans le bagage quelques vêtements, du saucisson et du fromage, et un peu d'argent. Puis, il avait vidé et rempli le sac à 3 reprises. « Je vais le refaire mieux », répétait-il à chaque fois, essayant de repousser l'inexorable destin. Et lorsqu'il n'y avait eu plus rien qu'il puisse faire, il s'était laissé envahir par l'angoisse et le désespoir. « Que vais-je devenir ?» avait-il demandé. « Je reviendrai vite. J'aurai si peur pour toi. Il ne faut pas. J'aurai peur tous les jours. » Oui, tant que son fils ne reviendrait pas, il ne mangerait plus, ni ne dormirait. Il serait désormais le plus malheureux des hommes. « Tu m'écriras ?»« Bien sûr, papa. Et moi, je t'attendrai toujours. » Il avait serré son fils contre lui. « Il faudra continuer à t'instruire, » avait-il ajouté. « L'instruction, c'est important. Si les hommes étaient moins sots, il n'y aurait pas la guerre. » Pal avait hoché la tête. « Si les hommes étaient moins sots, nous n'en serions pas là. »« Oui, papa. Je t'ai mis des livres. Je sais. Les livres, c'est important. » Le père avait alors attrapé son fils par les épaules, furieusement, dans un élan de rage désespéré. « Promets-moi de ne pas mourir. Je te le promets. » Pal avait pris son sac et il avait embrassé son père. Une dernière fois. Et sur le palier, le père l'avait retenu encore. « Attends, tu oublies la clé. Comment reviendras-tu si tu n'as pas la clé ?» Pal n'en voulait pas. Ceux qui ne reviendront plus n'emportent pas de clé. Pour ne pas peiner son père, il avait simplement murmuré « Je ne voudrais pas risquer de la perdre. » Il y avait eu un long silence. « Au revoir, mon fils, » avait dit le père. « Au revoir, papa, » avait dit le fils. Pal avait encore soufflé « Je t'aime, papa. » Mais son père ne l'avait pas entendu.
Déchirant tout ça, extrait de « Les derniers jours de nos pères » de Joël Dicker. Allez, on change complètement de sujet. Allez savoir, est-ce que c'est la sortie de la comédie musicale Wicked qui m'a donné l'envie de me replonger par le biais du livre audio, en me créant mes propres images ou en retrouvant celles du film de 1939, énorme production de la Metro-Goldwyn-Mayer, de quoi mais du magicien d'Oz, bien sûr. Ah, la petite Judy Garland. Et ses 3 acolytes, l'homme de fer blanc, l'épouvantail, l'irrésistible roi peureux, et le fameux magicien, et la sorcière, et l'arc-en-ciel, et le petit pont de pierre, et la musique. Et le rêve. Moi, j'avais oublié tout le début. Et vous, on va réécouter ça, lu par Marlène Jobert, puis par Thomas Soliver.
Dorothée s'engouffra dans la maison en serrant Toto dans ses bras. À l'intérieur, elle s'apprêtait à suivre sa tante Emma dans l'escalier de la cave quand une violente secousse projeta la petite fille au sol. La maison tout entière se mit à gémir, à craquer et à tournoyer dans les airs comme si elle n'était qu'une toute petite toupie de bois. Allongée par terre et secouée dans tous les sens, Dorothée finit par s'évanouir. Et soudain, boum ! Après un grand bruit, la petite fille se réveilla. La maison vient d'atterrir quelque part, mais où ? Elle tient toujours contre elle Toto, qui lui lèche les mains, mais elle ne voit pas sa tante Emma. A-t-elle eu le temps de se réfugier au fond de la cave avant que le reste de la maison ne s'envole ? Sûrement. Dorothée se lève, ouvre la porte et là, elle découvre un paysage incroyable et stupéfiant de beauté.
Dorothy fut réveillée par un choc si brutal qu'elle aurait pu être blessée si elle n'avait pas été couchée sur son lit moelleux. La secousse lui coupa le souffle et elle se demanda ce qui se passait. Quant à Toto, il colla sa petite truffe froide sur le visage de Dorothy avec des gémissements sinistres. Elle s'assit et s'aperçut que la maison ne bougeait plus. En outre, un soleil radieux avait dissipé les ténèbres et ses rayons pénétraient par la fenêtre pour illuminer la petite pièce. Elle bondit de son lit et alla ouvrir la porte avec Toto sur ses talons. La fillette poussa un cri émerveillé et ses yeux s'écarquillèrent en découvrant un spectacle prodigieux. Le cyclone avait déposé la maison avec une douceur étonnante, du moins pour un cyclone, au milieu d'un pays d'une beauté incroyable. C'était une profusion de tapis de verdure, d'arbres imposants chargés de fruits somptueux, de massifs de fleurs splendides et d'oiseaux aux couleurs exotiques qui voltaient en chantant dans les frondaisons. Non loin de là, les eaux scintillantes d'un ruisseau coulaient entre deux rives verdoyantes. Leur murmure était enchanteur pour une fillette qui avait vécu si longtemps dans la grisaille et la sécheresse des grandes prairies. Tandis qu'elle dévorait des yeux ce paysage sublime, elle vit s'approcher d'elle les créatures les plus bizarres qu'elle ait jamais rencontrées. Elle n'était pas aussi grande que les adultes auxquels elle était habituée, mais on ne pouvait pas dire non plus qu'elle soit petite. En fait, elles étaient de la même taille que Dorothy.
Vous savez quoi, j'ai envie de revoir le film avec Judy Garland et moi le lion peureux là, c'était vraiment que j'ai aimé ça. Et vous, alors vous savez maintenant que ça existe en livre audio, tout comme existe en livre audio Wicked. Wicked, la véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest, livre signé au départ par Gregory Maguire. Pour découvrir la jeune Elphaba et comprendre comment et pourquoi elle est devenue la méchante sorcière de l'Ouest, dont triomphe Dorothy dans Le magicien d'Oz de Frank Baum. Voilà. Tout est dans tout. Alors, dans Wicked, on suit Elphaba, une jeune femme incomprise à cause de la couleur inhabituelle de sa peau, qui ne soupçonne même pas l'étendue de ses pouvoirs. À ses côtés, il y a Glinda, qui, aussi populaire que privilégiée, ne connaît pas encore la vraie nature, elle, de son cœur. Leur rencontre à l'université de Chiz, dans le fantastique monde d'Oz, marque le début d'une amitié improbable mais profonde. Cependant, leur rapport avec le magicien d'Oz va mettre à mal cette amitié et voir leur chemin s'éloigner. Je n'ai pas vu la comédie musicale ni à Broadway, où elle fait toujours un malheur, un tabac, ça fait des années que c'est donné à Broadway, ni sur le grand écran. J'ai lu des très bonnes critiques, j'ai lu aussi les pires horreurs. Alors, je ne sais pas. Mais enfin, bon, mettons que c'était... vu que Wicked vient de sortir, produit par Audiolib en livre audio, je trouvais que c'était une bonne occasion de vous en faire entendre un extrait en français.
« Tout le monde a le droit d'avoir un avis, » reprit le lion d'un ton désinvolte. « Elle a été privée d'amour maternel, à ce que j'ai entendu. Elle a été maltraitée dans son enfance. Elle était droguée aux médicaments qu'elle prenait pour sa maladie de peau. »« Elle n'a pas eu de chance en amour, » reprit le bûcheron, « comme nous autres. »
Le bûcheron de fer blanc posa la main sur son sternum, comme s'il souffrait.
« C'est une femme qui préfère la compagnie des femmes, » dit l'épouvantail en se relevant.
« C'est la maîtresse dédaignée d'un homme marié. »«
C'est elle, l'homme marié !»
La sorcière était tellement abasourdie qu'elle faillit lâcher sa branche. S'il y avait bien une chose dont elle n'avait que faire, c'était les ragots. Pourtant, elle vivait recluse depuis si longtemps qu'elle était stupéfaite par les opinions que proféraient vigoureusement ces inconnus.
« C'est un despote, un dangereux tyran !»
ajouta le lion avec conviction. Le bûcheron tira plus fort que nécessaire sur un nœud dans la crinière.
Tout est dangereux à tes yeux, espèce de poltron. D'après ce que j'ai entendu dire, elle s'est fait le héros de l'indépendance pour les soi-disant Winkies.
Qui qu'elle soit, elle doit sûrement pleurer la mort de sa sœur, dit l'enfant, d'une voix trop profonde et trop sincère pour une personne si jeune. La sorcière en eut la chair de poule.
Ne va pas lui témoigner de la compassion. Moi, en tout cas, je n'en ai aucune.
Renifla le bûcheron avec un léger cynisme.
Mais Dorothy a raison, dit l'épouvantail. Nul n'est sape au sagrin.
La sorcière était profondément irritée de leur considération condescendante. Elle fit le tour du tronc, s'étirant pour apercevoir l'enfant. Le vent se levait, et l'épouvantail frissonna. Tout en continuant à tripoter les tresses du lion, le bûcheron s'appuya sur lui. L'animal se laissa faire gentiment.
« Tempête à l'horizon !»
dit l'épouvantail. À des kilomètres de là, le tonnerre gronda.
« Il y a une sorcière à l'horizon !»
dit le bûcheron pour taquiner le lion. Effrayé, celui-ci alla rouler en gémissant sur la tête de l'épouvantail, et le bûcheron s'entassa sur eux.
« Mes bons amis, devrions-nous nous inquiéter de cet orage ?»
demanda la petite fille. Les vents qui se levaient agitèrent enfin le rideau de verdure, et la sorcière aperçut la fillette. Elle était agenouillée, recroquevillée sur elle-même. Ce n'était pas une délicate petite chose, mais une grande et saine fille de la campagne, vêtue d'une robe à carreaux bleus et blancs et d'un tablier. Un horrible petit chien tremblait de peur et gémissait dans son giron.
« C'est l'orage qui te rend nerveuse. C'est naturel après ce que tu viens de subir, »
dit le bûcheron.
« Détends-toi. »
La sorcière enfonça ses doigts dans l'écorce. Elle ne voyait toujours pas le visage de la fillette, juste ses avant-bras vigoureux et le sommet de sa tête avec ses couettes noires. Fallait-il la prendre au sérieux, ou bien s'agissait-il d'une simple graine de pissenlit soufflée du mauvais côté ?
Alors, Wicked de Gregory McGuire, moi, je n'ai pas vu la comédie musicale, mais apparemment, cette scène-là ne fait pas partie de la comédie musicale. Donc, j'y comprends rien. Mais Wicked, je peux vous le dire, ça a été produit par Audiolib en livre audio. Et c'est l'extrait que vous venez d'entendre à l'instant à l'émission Des livres pleins les oreilles, qui se poursuit dans quelques secondes avec Gérald Cousineau. Ah. Alors, je vous le disais, le voici, le voilà, avec un livre que moi-même, c'est rare qu'on dévore les mêmes livres par les oreilles, mais celui-ci, oui, il est passé par ma caboche à moi aussi. Cher Gérald Cousineau, je vous laisse le soin de nous présenter bonjour d'abord et ce livre-là ensuite.
Bonjour, cher Clotilde, oui, le barman du Ritz de Philippe Collin. Que je ne connaissais pas parce que c'est normal, c'est son premier roman. C'est un homme qui est un homme de radio. On dit que c'est un homme de radio passionné d'histoire. Et il a écrit, entre autres, un livre sur Pétain. Donc, de toute évidence, il s'intéresse beaucoup à la première moitié du 20e siècle français. Donc, le barman du Ritz, juste avant de passer à l'extrait, j'aimerais juste citer Hemingway. Une citation qu'on trouve au début du roman et qui en dit beaucoup, je pense. « Lorsque je rêve... » À l'au-delà, non, lorsque je rêve de l'au-delà, du paradis, je me trouve toujours transplanté au Ritz à Paris. Hmm. Alors ça, c'est du Hemingway. Est-ce que la phrase est extraite de
Je sais
Paris
pas.
Est une fête, Paris est une fête, on ne le dit pas.
Ah, mais
okay. Ça pourrait très bien être le cas. Donc, passons à l'extrait qui va tout de suite nous mettre dans le bain.
D'accord.
Guitry regrette l'absence de Göring et suggère que le special soit rebaptisé le Frankreich. Les autres se régalent au Pimm's ou au Highball, cadeau de la maison. Le colonel Speidel, clipper en main, fend la foule, saluant les uns et les autres jusqu'à Marie-Louise, qu'il gratifie d'un baise-main. Charles Bedeau ne sait où s'installer et finit au comptoir avec la veuve Esus. La soirée se déplie et Franck sent son corps se libérer. Il retrouve la fluidité de ses gestes, il s'applique, il sourit, il suggère. Il est redevenu le maître du jeu. Le phonographe offre du Bach en sourdine. Le niveau sonore s'élève peu à peu dans la salle, les conversations prennent, les cocktails s'enchaînent et dans la salle, les mélanges se font. À 20h, la plupart des convives sont debout comme à la grande époque. Fersen et Cocteau parlent théâtre et une amie d'Arletty plaisante avec un jeune major allemand d'une grande galanterie. Beaucoup sont attendus pour souper en ville. Marie-Louise, ravie, convie les autres à rejoindre le restaurant du Ritz. Le monde d'avant est de retour. Tous ou presque sont revenus. Ne manque que Blanche. Cela vaut mieux pour tout le monde.
Oui, alors le Ritz, ce lieu bondé et... vidé par les Français et rempli par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ouais. D'ailleurs, j'ai bien noté l'expression « le barman se retrouve le maître du jeu ». Tiens, tiens, tiens.
Ouais, ouais,
alors,
ouais.
Nous sommes donc en juin 1940, quand l'armée allemande envahit la France. Mais il y a, à Paris, il y a un endroit qui ne respecte pas le couvre-feu. C'est le Grand Hôtel Ritz. Alors là, bien sûr, vont se réunir les dignitaires allemands, les collaborateurs, les résistants, parfois les vedettes comme Arletty, Coco Chanel, Sacha Guitry. Et pourquoi? Parce qu'entre autres choses, il y a un barman derrière le bar, on le dit, le plus grand barman du monde, Frank Meyer. Frank Meyer, c'est un Autrichien d'origine, qui a quitté l'Autriche au tout début du XXe siècle. Il s'est retrouvé où? À New York, aux États-Unis, et c'est là qu'il a fait l'apprentissage du métier de barman. C'est là où il aurait appris son métier, et il a développé ce métier avec beaucoup, beaucoup de talent. Et tout ça nous a raconté comment, c'est une sorte d'histoire dans l'histoire, parce que dans le roman de M. Collin, il y a beaucoup d'extraits du journal de Frank Meyer. Et c'est là qu'il raconte comment il en est venu vivre aux États-Unis, comment il a fait son métier, comment il a fait la guerre de 14-18, et comment il s'est retrouvé au Ritz en 1921. Alors, il est donc barman du Ritz depuis 1921. La guerre arrive. Il ne s'enrôle pas parce qu'il a passé un certain âge. Donc, il est toujours barman. Évidemment, l'armée allemande, les soldats allemands, les dignitaires surtout se pressent au bar parce qu'il fait des cocktails extraordinaires. Et là, il y a des noms qui m'ont complètement échappé, Clotilde. Je ne suis pas un spécialiste des cocktails. J'en ai perdu un peu, là.
Non, mais par contre, ce qu'il faut dire, c'est que si le couvre-feu n'est pas imposé au Ritz, c'est parce que les Allemands y allaient, quoi.
Voilà.
C'est, parce que sinon, tous les autres, eux, étaient obligés de faire. Mais donc, tout le monde était jaloux, en plus du Ritz, quoi, à l'époque.
Et d'ailleurs, Frank Meyer va se rendre compte qu'il y a une coupure entre le monde du Ritz, le monde de l'intérieur, là, avec le fast, le luxe, tout ça, et le monde de l'extérieur, parce qu'il y a le rationnement à l'extérieur.
Mais oui, ça crève de faim.
C'est ça, les gens ont faim, tout ça. Donc, il y a un monde. Lui, il va vivre quand même assez bien pendant les 4 ans, 40-44. Et là, on a l'évolution de la guerre. De 40 à 44, ça nous est détaillé, soit par le journal du barman, soit par la vie quotidienne, tout ça. Et il y a des passages un peu plus savoureux, comme l'arrivée de l'inénarrable Göring, maréchal Göring.
Oui, qui était quand même le bras droit de Hitler.
Oui, et quand on apprend que ce monsieur qui prenait des bains régulièrement consommait toute l'eau de l'hôtel et qu'on n'osait pas le lui dire, on rit, mais c'est pas drôle.
Non, c'est pas drôle, mais c'est ça.
C'est quand même la guerre.
Oui.
Mais il avait des problèmes de santé, ce monsieur Göring. Donc, c'est la vie quotidienne du Ritz qui est racontée avec, encore une fois, les vedettes
De l'époque.
Arletty, Coco Chanel, etc. Cocteau, bien sûr. D'ailleurs, certaines personnes parmi ces gens-là ont eu un peu de mal à la libération de Paris.
Ah ben oui.
Guitry a été emprisonné.
A été arrêté, oui.
Donc, on se rend de 40 à 44. C'est absolument passionnant parce que dans l'avant-propos, l'auteur prend la peine de dire que les faits et les personnages sont réels.
Réels.
Bon, est-ce que le barman, alors on suppose que le barman a vraiment existé, mais le clou de l'histoire, c'est que ce monsieur d'origine autrichienne, ce monsieur qui a fait la guerre de 14-18 du côté français, eh bien, il est juif.
Et c'est ça, au milieu des Allemands.
Quelle bonne idée d'avoir fait un roman avec ça. On ne l'avait pas fait encore, c'est curieux. Donc, il est juif, mais il réussit à cacher ça pendant toute la guerre. Jamais il ne sera ennuyé par l'armée allemande, par les dignitaires allemands. Il va même, je ne dirais pas sympathiser, mais quand même, ils vont trouver plaisir à jaser avec lui. Et surtout, ils vont rechercher ses cocktails. Encore une fois, il va protéger son apprenti, Luciano, qui est également juif. Ouais. À un moment donné, la vis va être serrée un peu, mais il va réussir quand même à s'en sortir. Il va réussir à libérer, en quelque sorte, Luciano. Mais ce qui est formidable, c'est de voir avec quelle méticuleuse précision historique. L'auteur raconte une histoire. On y est vraiment.
On vit
dans cet hôtel. D'ailleurs, à la toute fin de l'histoire, en 44, quand Paris est presque libéré, le personnage, Franck Meyer, va se payer pour une fois une chambre.
Oui.
Il est presque, l'hôtel est quasi désert. C'est une très belle image.
Oui.
Il choisit une chambre, une belle chambre, évidemment, au hasard. Là, il va dormir là.
Oui.
Pour la première fois de sa vie, il n'avait jamais dormi là avant. Oui. Mais là, l'hôtel est quasi vide. Paris est quasiment libéré. Oui. Mais c'est vraiment une très belle
histoire. Et il attend les représailles. Hein. Il est convaincu que la résistance...
Oui.
va lui tomber dessus parce qu'il a abreuvé les Allemands pendant toute la guerre.
Et c'est ça, d'autant plus qu'encore une fois, certains qui ont fréquenté les Allemands vont avoir des ennuis. Mais je ne dirais pas s'il en aura des représailles ou non, je laisse ça au lecteur. Mais c'est quand même un très bon personnage.
Ouais.
C'est un humaniste, finalement, ce monsieur-là, un philosophe qui doit s'arranger avec la situation. Et il y parvient très bien, quoique. Il est toujours sur une corde raide. À un moment donné, il va même trafiquer des faux passeports.
Oui.
Donc, c'est dangereux, ça, quand même.
Pour des Juifs, pour les faire sortir.
Donc, et quand je dis que tout se passe entre 40 et 44, en même temps, on apprend l'invasion de la Russie par l'Allemagne, évidemment, l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais, donc les États-Unis entrent en guerre, l'affaire Petiot, rappelez-vous ce médecin qui tuait littéralement des Juifs.
Qui pour les dépouiller, émigrer. Oui.
Voilà, donc, en même temps, on apprend tout ce qui se passe durant cette guerre-là par l'entremise du journal de Franck Meyer, donc ce barman, cet homme qui passe pour être un grand, grand, grand barman, et de toute évidence, il l'est, parce qu'on revient de soir en soir boire ses cocktails. Donc, c'est un roman formidable. Si vous connaissez mal l'histoire de l'occupation, on a beaucoup écrit sur l'occupation en France, mais c'est quand même, à mon avis, un des meilleurs livres qu'on peut trouver sur ce sujet.
Je suis tout à fait d'accord, parce que là, on n'est pas du côté de la résistance, on est du côté... allemands, lorsque les Allemands, profitent, c'est l'opulence pour eux à Paris. Hein. Donc, pendant que les autres crèvent de faim dans les caves à éviter les bombes, parce que c'est ça, on passe son temps dans le métro à se protéger des Anglais, des bombardements anglais.
Les soldats allemands, les dignitaires allemands savent très bien qu'ils peuvent du jour au lendemain être envoyés dans l'Est.
Oui.
Dans l'Est, ça veut dire la Russie,
oui.
Où l'armée allemande commence à avoir des ennuis, on pense à Stalingrad.
Oui.
Donc, ils ont intérêt à marcher...
droit.
oui,
absolument.
À marcher droit, parce que Hitler ne joue pas avec cette chose-là. Un maréchal, peu importe, son titre va être envoyé dans l'Est facilement. Donc, ça aussi, il y a une tension. Même chez ces Allemands-là, on sait qu'ils ils sont amovibles.
Alors, absolument.
Ils savent eux-mêmes. Et ça rend encore l'histoire plus énervante.
Oui, et ça les rend un peu plus humains, et beaucoup sont très cultivés. Ça les lie aussi entre Meyer. C'est ça.
Guerre qui a une grande place dans le roman, et qui est un soldat très cultivé, et qui lui a survécu la guerre. Il est mort à quasi 100 ans, je pense.
Oui.
Il y a effectivement dans le roman quelques personnages, il faut bien dire, de soldats de dignitaires allemands très, très, très sympathiques.
Très sympathiques, oui.
Parce qu'on généraliserait en disant qu'ils étaient tous antipathiques, pas du tout. Et bien, le roman rend très bien cette idée de non, c'était d'abord et avant tout des êtres humains. Ils étaient du côté allemand, c'est tout. Mais c'était d'abord et avant tout des êtres humains. Et là, ils étaient contents de se retrouver entre humains. Une pause de la guerre.
En tout cas, je suis heureuse que vous l'ayez apprécié, parce que je l'ai aussi beaucoup aimé en audio. Moi, je fais ça en faisant de la peinture, si vous voulez, je vais dire ça. ou dans ma voiture, ou c'est ça. Et vraiment, j'avais hâte de retourner à mes pinceaux pour savoir ce qu'allait se passer avec ce barman du Ritz, qui, lui, par contre, a été moins chanceux que le fameux Jungen, là, qui est mort à 100 ans. Lui, il est mort en 47. Donc, il est mort, finalement, peu de temps après la libération.
Oui,
mais
Mais
on ne sait pas de quoi. C'était pas précisé. Alors, écoutez, merci tellement de nous avoir parlé de ce livre, Le Barman du Ritz, de Philippe Collin. C'est lu en audio chez Audiolib par Florian Wormser. S'il a un nom germanique, alors ce qui est formidable, c'est qu'il n'a aucun problème avec tous les noms allemands qui viennent dedans. Et ça, ça
Il y
rend...
en a beaucoup.
Il y en a beaucoup, et ça rend aussi l'écoute vraiment très agréable. Merci infiniment, cher Gérald. On va se retrouver très, très rapidement,
bien.
À peu près aux 2 semaines, à peu près.
Oui.
On se fait signe, quoi.
Alors, à la prochaine.
À la prochaine, mon ami. Bonne fin de journée. Salut, bye. Vous allez dire que je m'accroche à lui, mais aujourd'hui, ce ne sont pas vraiment des nouveautés, mais des livres qui m'avaient échappé, dont je voudrais vous parler pour finir cette émission-là. Et je reviens à Joël Dicker et Un animal sauvage. Un animal sauvage, d'ailleurs, qui fait partie des 10 livres les plus vendus, que ce soit en France ou ici, au Québec. Il y en a d'autres, d'ailleurs. Il y a le livre de Caroline Dawson, je vais ouvrir une petite parenthèse, Là où je me taire. Il y a le livre dont je parlais récemment à cette même émission, Ce que je sais de toi, d'Éric Chacour, aussi, qui fait partie des 10 livres qui se vendent le plus, mais vraiment celui qui fait un tabac, c'est 100 ans d'amour, réflexion sur la vieillesse, signé Jeannette Bertrand, qui devrait bien exister un jour en audio, du moins nous allons l'espérer, espérons trouver les moyens pour cela. Alors, Un animal sauvage, il s'agit d'un braquage à Genève, c'est un livre qui est sorti en 2024, je vous dis, il m'avait échappé. On est avec deux malfaiteurs qui sont sur le point de dévaliser une grande bijouterie de Genève, mais c'est un braquage qui est loin d'être un banal fait divers. Et puis, parallèlement à ça, il y a cette banlieue cossue sur les bords sur les rives du lac Léman, avec Sophie Brown qui s'apprête à fêter ses 40 ans. Elle a une vie qui lui sourit, elle habite avec sa famille dans une magnifique villa bordée par la forêt. Mais voilà que son monde idyllique commence à vaciller lorsque son mari est empêtré dans des petits arrangements, lorsque, et là on va l'entendre dans l'extrait, son voisin, qui est un policier pourtant réputé irréprochable, est tellement fasciné par elle que... il l'épie dans sa vie la plus intime. Il y a aussi un mystérieux rôdeur qui lui offre un cadeau le jour de son anniversaire. Il y a tous ces nombreux allers-retours dans le passé, loin de Genève. Personne ne sortira, nous dit-on, indemne de cette histoire, pas même le lecteur et surtout pas l'auditeur de « Un animal sauvage » de Joël Dicker, lu par Laurent Natrella, extrait.
Un homme qui se savait invisible dans ses vêtements de sport sombre était accroupi derrière un tronc, les yeux rivés sur Sophie dans sa cuisine. Sophie, son café à la main, observait la lisière de la forêt qui marquait la fin de son jardin. C'était son rituel du matin. Elle embrassait du regard son petit royaume sans se douter qu'on l'épiait. À quelques kilomètres de là, au centre de Genève, une Peugeot grise aux plaques françaises roulait sur une avenue déserte. Dans le jour naissant, on ne distinguait pas son conducteur à travers le pare-brise. Le véhicule attira l'attention d'une patrouille de police. Des gyrophares bleus illuminèrent les façades des immeubles alentours. Les policiers procédèrent au contrôle de la Peugeot et de son conducteur. Tout était en ordre. L'un des policiers demanda au conducteur ce qu'il venait faire à Genève. « Une visite de famille », répondit-il. Les policiers, visiblement satisfaits, repartirent. Le conducteur se félicita de cette voiture d'occasion, achetée à très bon prix et surtout en toute légalité. C'était le meilleur moyen de passer inaperçu. Sophie, à la fenêtre, continuait d'observer son jardin. Parfois, elle surprenait un renard qui vagabondait sur la pelouse. Il lui était même arrivé de voir un chevreuil. Elle adorait cette maison, acquise avec son mari une année auparavant. Il vivait jusqu'alors dans un appartement au cœur de Genève, dans le quartier de Champel. L'idée d'une maison avec un jardin pour les enfants leur trottait dans la tête depuis un moment. La hausse des prix de l'immobilier les avait décidés à vendre leur appartement avec une belle plus-value et à se mettre à la recherche d'une maison. Lorsqu'ils avaient visité cette villa d'architecte située dans la commune huppée de Coligny, ils n'avaient pas hésité une seconde. Ils se réveilleraient tous les matins dans ce cadre enchanteur, tout en étant à 4 kilomètres du centre de Genève où ils travaillaient tous les deux. Quelques arrêts de bus, 12 minutes de voiture, 15 minutes de vélo électrique pour les bobos. Il n'en fallait pas plus pour passer d'un univers à un autre. L'homme caché dans les taillis observait à présent Sophie à l'aide d'une petite paire de jumelles militaires. Il scrutait son corps élancé que dévoilait sa robe de chambre courte et s'arrêta sur le haut de sa cuisse où apparaissait le tatouage d'une panthère. Quelques dizaines de mètres derrière lui, son chien attendait patiemment attaché à un arbre. L'animal, couché sur un tapis de feuilles, semblait habitué à cette routine qui durait depuis maintenant plusieurs semaines. Son propriétaire venait ici tous les matins. À l'aube, il s'installait là et observait Sophie à travers les baies vitrées. Les Brown dormaient, les stores ouverts, et ils voyaient tout. Ils la regardaient se lever, descendre dans la cuisine, se faire un café et le boire à la fenêtre. Elle était tellement désirable. Il était obnubilé par elle, obsédé.
Je vous le disais, une intrigue diabolique dont personne ne sortira indemne. C'est la même chose pour le suivant. Vivre avec les hommes, réflexion sur le procès Pellicot. Difficile de ne pas avoir entendu parler de ce procès qui s'est tenu en France il y a quelques mois maintenant. Procès d'un mari qui, avec d'autres sordides individus, droguait littéralement sa femme, Gisèle Pellicot, et abusait d'elle, et ont abusé d'elle pendant des années et des années et des années. Ont aussi apparemment abusé de la fille qui porte plainte maintenant contre son père. Bref, une histoire sordide. Et ce sont des réflexions sur le procès Pellicot que Manon Garcia nous propose. Elle écrit « Je suis philosophe. Je m'intéresse au rapport entre les femmes et les hommes. Après un premier livre sur la soumission des femmes aux hommes, j'ai écrit un ouvrage sur le consentement et les injustices de genre dans la sexualité hétérosexuelle. » Elle écrit « J'hésite à aller au procès de Mazan et puis je me rends à l'évidence. Il me faut écrire ce procès et l'expérience que j'en fais comme philosophe et comme femme et tenter de répondre à cette question qui me hante. Peut-on vivre avec les hommes ?» Vivre avec les hommes, extrait.
Quand, après 3 jours passés dans la salle de retransmission, je pourrai enfin entrer dans la vraie salle grâce à une accréditation, je prendrai la mesure de tout ce que je n'avais pas vu, pas senti, pas compris. La caméra qui filme dans la salle d'audience est fixe. On voit en plan large les juges, les procureurs du ministère public et le pupitre où s'avancent les experts, les témoins et les accusés qui comparaissent libres. On ne voit jamais les policiers, les avocats de la défense, les accusés incarcérés. Ni les rapprochements entre ces derniers, leurs ricanements, ni la façon dont Dominique Pellicot semble physiquement régner sur le procès depuis son box. J'y reviendrai. À mesure que le temps passe devant les grilles, la file d'attente s'allonge. Des jeunes femmes qui s'intéressent au procès, une mère et une fille venues de loin pour voir Gisèle et pour comprendre, une comédienne de l'ouest de la France. Des hommes arriveront plus tard, mais je ne parviendrai pas à leur parler. Pour celles que nous sommes ce matin-là, leur présence est un mystère. Que veulent-ils ? Est-ce qu'ils sont là dans l'espoir de voir les vidéos des abus subis par Gisèle Pellicot ? Brigitte nous rassure. Aujourd'hui, il n'y aura pas de vidéo. Mais les jours où il y en a, nous dit-elle, il y a foule et on pourra voir les petits culs qui frétillent dans la salle de retransmission. Alors, qui sont ces hommes ? Certains semblent penser qu'il ne faut pas rater ça ou qu'ils se doivent d'être là, mais ils ne nous parlent pas. Sinon deux d'entre eux qui, clairement, espèrent nouer des liens avec les femmes présentes. Quelques minutes avant l'ouverture des grilles, des hommes arrivent aux abords de la grille sans prendre place dans la file. Ma première pensée est qu'ils essaient de doubler tout le monde, mais je comprends qu'ils attendent sans doute pour d'autres affaires. L'évidence m'échappe tout d'abord. Certains d'entre eux sont des accusés du procès qui m'intéresse. Sur les 50 mis en accusation aux côtés de Dominique Pellicot, un est en fuite, certains sont incarcérés, mais la majorité n'est pas en détention provisoire. Ils viennent au tribunal le matin, on les croise dans le couloir pour aller aux toilettes, à la machine à café. Si, les jours d'affluence au procès, ils sont masqués et portent une capuche dans la salle des pas perdus pour ne pas être pris en photo, ce n'est pas toujours le cas. Et comme on ne les voit sur l'écran de la salle de retransmission que lorsqu'ils sont à la barre, je passerai les premiers jours à m'interroger à chaque homme sans robe d'avocat que je vois passer. Violeur ou pas violeur. Et une fois que je les aurai identifiés et que je découvrirai la haine de certains d'entre eux pour les « féministes enragées » présentes au procès, je n'emmènerai pas large.
Ouh, coup de poing, hein, rappelons-le, hein, 51 personnes. Ça a duré, je ne sais plus combien de temps, mais c'est sordide. Depuis d'ailleurs, il y en a d'autres affaires comme celle-ci, malheureusement. Ce n'est pas la seule, ni en France, ni d'ailleurs ailleurs. Elle rêvait d'autres cieux et d'autres matins. On change de sujet complètement avec Christian Signol, lu par Fabienne Loriot. Clémence est une fille de paysan du Poitou qui rêvait d'être institutrice. Son frère meurt au front en 1917. Ça l'oblige à rester auprès de ses parents. Et c'est là qu'elle rencontre Franz, qui est un prisonnier de guerre allemand. Et par amour, elle décide d'aller le rejoindre en Allemagne, contre l'avis de son père, après la guerre, évidemment. Elle est fraîchement accueillie par la famille de Franz. Elle s'intègre mal dans ce pays qui a été hier un pays ennemi. Pourtant, elle finit par trouver ses repères. Elle met au monde un fils qui s'appelle Ludwig. Mais l'Allemagne s'enflamme, Hitler conquiert le pouvoir, elle est contrainte de rentrer en France, complètement bouleversée par cette séparation. Elle reprend vaillamment le travail à la ferme familiale, elle s'engage même dans la résistance. Ensuite, eh bien, elle ne cessera de rechercher Franz et Ludwig, dont elle n'a plus aucune nouvelle. Est-ce qu'elle les reverra? Est-ce que les liens du sang demeureront plus forts que le destin? C'est le thème de ce livre dont je vous rappelle le titre. Elle rêvait d'autres cieux et d'autres matins. C'est signé Christian Signol et c'est lu par Fabienne Loriot.
L'hiver qui suit ce 11 novembre n'est qu'un immense désert froid, sans joie, jusqu'à l'été 1919, un été précoce, dont les beaux jours ramènent à la fois la chaleur et les travaux des champs. C'est à l'occasion des moissons qu'elle le rencontre, lui, dans un champ de blé, sans savoir de qui il s'agit tout d'abord, puis apprenant lors du repas champêtre de midi qu'il est un prisonnier allemand sorti d'un camp voisin pour aider les paysans. Ils sont nombreux à y vivre de façon spartiate et à effectuer des travaux de coupe forestière, d'assainissement, d'entretien de chemins, de fossés. Et au moment des gros travaux agricoles de l'été, après accord avec l'administration du camp et les municipalités, à être affectés dans les fermes où les bras manquent pour en venir à bout. Ce qu'elle ne sait pas, Clémence, c'est que son propre père a refusé l'aide proposée aux paysans qui ont perdu un fils. Pas d'Allemand chez lui. Ce serait une insulte à la mémoire de son garçon. C'est une magnifique journée de fin juillet. Il fait très chaud. Le ciel est d'un bleu sans nuages. Le hasard a placé Clémence à l'ombre, pas très loin du jeune Allemand. Elle l'observe à la dérobée. Le trouve beau. Il est grand, brun, frisé, avec des yeux d'un vert profond, des bras fins au cours des veines bleues, et leurs regards se croisent pour la première fois. Ce sera la seule ce jour-là. Elle en a honte. Se sent coupable de trahison vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de son frère, vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis des voisins assis à l'ombre et qui se tiennent à l'écart de l'étranger, coupable à leurs yeux des souffrances endurées depuis trop d'années. Au cours de l'après-midi, elle aussi se tient à l'écart, trouve à s'employer le plus loin possible du jeune Allemand et elle refuse même de porter à boire au moissonneur pour ne pas avoir à le croiser. Elle n'aura d'ailleurs pas à le servir lors du repas du soir car il ne mange pas à la table commune. Il est reparti dès 7 heures vers le camp, le commando, où il doit rentrer chaque soir, comme tous ceux qui y sont prisonniers. Et ça, Clémence l'a remarqué. Une morsure s'est refermée sur sa poitrine, sans qu'elle comprenne pourquoi, ou plutôt, sans qu'elle cherche à en deviner la raison. Elle sait que les gens de la vallée ne sont pas capables de cruauté consciente, mais elle les connaît bien. Dès lors qu'ils ont souffert, ils pratiquent peu le pardon. Ces hommes et ces femmes vivent arc-boutés sur leur terre, d'où ils tirent toutes leurs ressources. Et ils ont cru la perdre à cause de la guerre, de ces envahisseurs qui ont déferlé sur la France et tué leurs enfants. Comment pourraient-ils pardonner? Ils ne feront pas de mal à un jeune Allemand venu les aider aux travaux des champs, mais ils ne lui concéderont aucun égard. Il repart chaque soir au camp, sous la stricte surveillance de militaires français, et c'est très bien ainsi. Elle s'en veut, Clémence. Et elle le fuit tout le temps que vont durer les moissons dans les fermes du voisinage, c'est-à-dire pendant 3 semaines. Puis tout rentre dans l'ordre. Les greniers sont pleins, la paille est entassée dans la grange, la douce vie du Poitou s'installe dans les terres et les bois, les éteules blondissent au soleil, l'eau des rivières chante sous les frondaisons, Les nuits ruissellent d'étoiles dont la mystérieuse beauté console des chagrins de la vie.
Voilà, extrait de cette nouveauté. Elle rêvait d'autres cieux et d'autres matins. En fait, pas une nouveauté. Hein. Ça fait aussi partie des livres qui m'avaient échappé et que je voulais vous présenter à cette émission, des livres plein les oreilles. C'est ainsi que cela s'achève. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Merci à mon camarade Mathieu Tessier aussi qui m'a prêté main et oreille forte. Et puis merci à Gérald Cousineau. Je vous souhaite une très belle semaine. Écoutez des livres audio. Tiens, en voiture, par exemple. Pourquoi pas? Vous avez 300 km à faire, vous allez à Québec, ça va être parfait.